Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Pourquoi l'être humain s'est-il séparé de la nature ? Par erreur d'interprétation des textes fondateurs des civilisations, par manque de responsabilité envers l'écosystème Terre, comment favoriser la naissance d'une société équilibrée qui ne serait plus un écran entre l'être humain et la nature ? Et si la clé se trouvait dans une grande révolution, une révolution psychologique, une révolution intérieure, d'abord individuelle et puis collective. Une simplification de l'emprise des pensées sur soi et celle de leur nombre permettrait peut-être de faire muter la société. L'homme n'est-il finalement intrinsèquement qu'un mégalomane destructeur ? N'a-t-il fait qu'évoluer matériellement sans muter collectivement ? Face aux deux messianismes qui sont à l'œuvre sur notre planète, une troisième voie est-elle concevable ? Et si le dialogue entre l'homme et le reste de la nature pouvait être restauré et permettre que la société ne soit plus un grand puzzle en désordre ? Dès lors, la voie à emprunter est peut-être de relancer une dynamique positive de vie en recourant à une gouvernance naturelle assise sur un ordre naturel harmonieux. C'est ce que nous propose Thomas Grosnier dans son ouvrage « La mécanique secrète » paru en 2023 chez Hasard Atelier Éditions. Bonjour Thomas Grosnier.
Alors c'est Thomas Cronier.
Cronier, pardon.
Merci. Bonjour Philippe.
Nous avons le plaisir donc de vous accueillir aujourd'hui. Merci de venir parler sur les ondes de Radio Présence. Et j'en profite pour saluer nos fidèles auditeurs. Une petite première question en forme de boutade. Ne seriez-vous pas un peu rousseauiste ?
Rousseauiste, pas du tout, non, je crois pas. Je suis juste un être humain qui se pose des questions.
D'accord.
Peut-être que Rousseau l'était aussi, mais
peut-être,
c'est clair.
Ouais. Et au-delà de ça, est-ce que, à votre avis, il est vital de croire en une utopie ?
En une utopie, si vous le pensez en termes d'idéalisme, je pense que non. Je pense que il est fondamental de rester le plus réaliste possible. Voilà, mais justement, dans ce réalisme auquel j'aspire, on va dire, il est clair que toutes les questions que vous avez évoquées au début, là, en reprenant certains de mes textes, viennent à interroger cette réalité à laquelle je me suis confronté et qui m'a amené à poser beaucoup de questions.
Alors, dans votre ouvrage, il y a quelques citations, notamment de Krishnamurti,
oui,
dont vous vous inspirez fortement, je pense, et qui au moins, dans votre réflexion, vous a assez influencé.
Oui, alors Krishnamurti fait partie des textes que j'évoque dans ma biographie au début, de ces douches mentales qui peuvent être utiles quand on se pose des questions sur l'être ou sur la nature en général. Et en fait, j'aime beaucoup la manière qu'il a eu de résister, on va dire, à tout ce qu'on lui proposait au début de sa vie, à savoir qu'il était l'instructeur du monde, un avatar, des choses comme ça.
Oui.
Et bon, il a quand même réussi à survivre à tout ça quelque part et à essayer de proposer aux gens sa voix et sa vérité pour se libérer le plus possible des peurs, des croyances, des conditionnements aussi. Et dans ce sens-là, je rejoins sa pensée sur tous ces sujets, quoi.
Alors, d'autres personnalités sont citées dans votre livre et vous ont certainement aussi inspiré. Alors, notamment Gandhi, commence par changer en toi ce que tu veux changer autour de toi, qui est un des aspects que nous allons voir en détail de votre livre. Et une autre personne qui est Simone Veil, qui cite, et vous citez sa phrase, « La société fait écran entre la nature et l'homme ». Donc c'est à travers ces deux choses Alors, c'est de penser.
Je ne me rappelle pas voir si c'était Gandhi dans mon texte, mais par contre, le principe que vous avez évoqué de la phrase de Gandhi que je connais par ailleurs, effectivement, j'adhère complètement, donc il n'y a pas de souci. Mais sinon, pour Simone Veil, oui, j'ai lu certains de ses textes. Et ça a été quelqu'un qui n'est pas resté longtemps sur Terre, mais qui a eu vraiment des fulgurances et une pensée très. Une pensée spirituelle très, qui est allée très loin, et elle a su conjoindre et conjuguer sa spiritualité avec une action sociale importante, je crois. Donc,
Bien, alors nous allons y revenir en détail.
D'accord.
Auparavant, un petit coup de projecteur sur votre biographie.
Allons-y.
Que vous explicitez légèrement dans votre livre. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes né en 1971 et, comme vous dites, à proximité de la cathédrale de Chartres. Vous avez une éducation catholique et laïque. Vous faites bien le distinguo. Cette précision est importante.
Alors, j'ai mis que j'avais une éducation catholique et une instruction laïque.
Oui.
Donc, en fait, oui, je fais une différence assez marquée entre ce qu'est l'éducation et ce qu'est l'instruction. Et là, on va rejoindre un peu ce que dit Krishnamurti quelque part. Donc, l'idée, c'est que l'instruction, c'est là pour donner de la connaissance, donc une approche de la réalité extérieure du monde, donc de ce qu'on appelle la connaissance, sachant que je différencie ça de la connaissance de soi. Et c'est ça dont je parle après dans mon livre et qui m'intéresse plus, en fait. Donc, en termes d'instruction, j'ai reçu une instruction, plutôt laïque. Et même si j'ai pu être dans des collèges ou dans des collèges catholiques et des choses comme ça. Mais après, l'éducation que j'ai reçue par mes parents et par ma mère en particulier, elle est plus orientée sur la religion catholique. J'ai été enfant de chœur à la cathédrale de Chartres. J'ai fait des choses comme ça. Et donc j'ai reçu toute cette éducation religieuse. Qui m'a été fort utile aussi par la suite.
Alors, vous poursuivez vos études dans un domaine particulier. J'aime beaucoup l'expression que vous employez en disant « je poursuis des études de mécanique céleste ». Vous pouvez expliciter à nos auditeurs.
Ah bah, c'est pas compliqué. En science, la mécanique céleste, c'est la mécanique, enfin, c'est la science qui s'occupe de la dynamique, donc du mouvement, des corps célestes et naturels, en fait. Donc ça ne prend pas en compte les satellites, les corps artificiels qu'on peut construire ici sur Terre et qu'on envoie dans l'espace. Ça ne traite que des objets célestes naturels. Et ça s'appelle la mécanique céleste.
Et donc, actuellement, vous exercez quelle profession ?
Alors actuellement, je travaille au CNES, au Centre National d'Études Spatiales, en tant qu'ingénieur. Voilà, tout simplement.
D'accord. Et ensuite, dans votre chemin de vie, vous parlez d'une prise de conscience, vous parlez de bipolarité, vous parlez également de prison, et vous parlez d'une longue enquête intérieure. Alors, on va y revenir plus en détail. Simplement... qu'est-ce qui vous a conduit à ce questionnement et à emprunter ce chemin, finalement, qui a été un chemin relativement long ?
Je ne sais pas s'il est long, le chemin, en fait, parce que dans les observations que j'ai pu faire, il y a les lois de la matière d'un côté, on va dire, et la loi immatérielle dont tout provient. Et cette loi immatérielle, elle a aussi une dynamique. Et donc un être humain, ça pousse un peu comme une plante, hein, quelque part. Il y a une graine qui est semée à un moment donné, et ça pousse sous la terre, et puis à un moment donné, ça va au-dessus de la terre. Donc par exemple, dans les traditions orientales, on va parler du lotus, pour décrire cette dynamique de développement intérieur. Et dans les traditions occidentales, on parlera plutôt de la rose. Mais dans les deux cas, ça prend quand même du temps, tout ça. C'est aussi l'image du métronome que je prends à la fin de ma biographie, ou à l'introduction du livre, où je pense que vraiment, de 0, on va dire, à 30 ans, chez un être humain, entre guillemets, classique, il y a toute une phase où on est plutôt orienté vers l'extérieur, vers le dehors. Et après, il y a éventuellement une plongée en soi qui s'opère si une impulsion a lieu.
Alors, c'est ce que vous appelez la mécanique du métronome de la vie.
C'est ça.
Alors, on va y revenir en détail. C'est, je voudrais le signaler à nos auditeurs, votre premier livre,
oui.
Publié donc chez Hasard Atelier Éditions. Je connais bien cette maison d'édition et vous n'échappez pas à la règle d'avoir une couverture recherchée, travaillée. Alors, exercice peut-être un petit peu difficile, est-ce que vous pourriez brièvement nous la décrire et nous expliquer la signification, sachant que c'est vous-même qui l'avez faite?
Alors, cette couverture qui est extraite d'un tableau que j'ai dans mon bureau montre une espèce de socle, donc un fond très noir qu'on ne voit pas ici sur la couverture, duquel émergent différentes cellules, comme ce qu'on peut voir ici sur la couverture. Et en fait, ce qui m'a... J'ai complètement peint ce tableau sans vraiment être conscient. Mais ce qui a guidé ma main, c'est surtout de décrire cette dynamique dont on vient de parler et qui s'applique au collectif humain. Est-ce qu'on retrouve en quatrième de couverture quand je décris le fond cosmique diffus duquel émergent les étoiles dans l'univers, quand je parle des pâquerettes qui sortent du fond d'une prairie, tout ça qui émerge de manière diverse et variée, d'un fond commun. Et il me semble que dans l'humanité, il y a ça. Et c'est pour ça que j'explique que ce qui guide mes pas au travers de la vie, c'est surtout ça. Quoi. Par exemple, des gens comme Simone Veil ou d'autres qui, pour moi, représentent des étoiles dans le fond cosmique de l'humanité.
Vous parlez dans votre livre et dans le petit texte au sujet de la couverture du tableau de la vie.
C'est à
mettre en relation avec ce que vous venez de dire.
C'est ça, oui.
Ouais, ouais, voilà. Est-ce que vous avez une définition de la nature?
Avec un grand N.
Alors, si vous voulez, comme vous voulez, sachant même que j'aurai une autre question à tiroir, qui est dit, vous écrivez au début du livre l'être-humain, et à la fin, il n'y a plus le tiré.
Oui.
Donc je voulais savoir si c'était
Alors,
volontaire.
Non, c'est pas voulu. la disparition du tiré n'est pas voulue. Pour ce qui est de la nature, à mon sens, c'est l'ensemble du vivant, quoi. Tout simplement, c'est la vie. C'est l'ensemble du vivant. On pourrait même parler de l'univers, hein, si on veut, mais puisqu'on ne sait pas s'il n'y a pas d'autres êtres vivants ailleurs, a priori, scientifiquement parlant. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, à la mesure de cette planète, c'est l'ensemble de ce qui vit sur cette planète, que ce soit matériel ou pas.
D'accord. Alors, nous allons peut-être faire une première petite pause.
Il n'est pas de hasard, il est des rendez-vous, pas de coïncidence. Aller vers son destin, l'amour au creux des mains, la démarche paisible, porter au fond de soi l'intuition qui flamboie, l'aventure belle et pure, celle qui nous révèle, superbe et enfantin. Au plus profond de l'âme, porté par l'allégresse, douceur de vivre, de l'été qui commence. La rumeur de Paris, comme une symphonie, comme la mer qui balance. J'arrive au rendez-vous, dans l'épaisse fumée. Observant de loin la foule qui ondule, mais le choc imminent, sublime et aveuglant, sans prévenir arrive. Je m'avance et je vois que tu viens comme moi d'une planète invisible. La pudeur du cœur impose le respect, la confiance sereine. Et plus tu t'ouvres à moi, et plus je m'aperçois que lentement je m'ouvre.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de Thomas Crosnier pour son ouvrage La mécanique secrète et nous venons d'écouter l'ouverture, enfin un extrait de l'ouverture d'Étienne Dao. Pourquoi ce choix ?
Alors, en fait, j'aime beaucoup les paroles d'Étienne Dao sur ce titre parce que ça décrit vraiment justement un peu, ça rejoint la dynamique dont on parlait tout à l'heure et le fait que quand les gens s'ouvrent, s'éveillent et se rencontrent, ils s'ouvrent encore plus en termes de partage et voilà, en ce qui me concerne, moi j'ai vécu ce genre de rencontre et c'est toujours assez, assez incroyable, hein, mystérieux à la fois, mais incroyable hein, parce que on voit bien qu'on se comprend du premier coup d'œil, du premier mot qu'on prononce, et qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, quand on est en relation avec une personne qui a beaucoup travaillé sur lui, quoi, ou sur elle, et je trouve ça beau. Quoi.
Et ça se sent ? Vous le ressentez ?
Je trouve que ça, c'est plus que ça se sent, ça se perçoit, ça se... Ouais. Ça se vit, enfin, c'est même manifeste, je sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se tromper, quoi. Dans ces cas-là, il suffit de deux, trois phrases pour se rendre compte de où on est, quoi. Et de ce qui se passe. Et donc de l'unité qui se dégage, ou dans laquelle on est, et d'où on provient. Voilà.
Et tout le monde a cette capacité.
Alors, ça rejoint le... Enfin, si on regarde mon tableau, on voit bien qu'il y a des gens qui évoluent de différentes manières. Il y a eu toute une relativité d'état depuis la source, on va dire, jusqu'au plan complètement manifeste. Et dans cette relativité d'état, forcément, il y a différents états possibles qui sont pas réellement une hiérarchie. Hein, on parle pas de ça, hein, mais c'est juste des différences. Et j'en parle dans le texte qui s'appelle « Être humain » de ça. C'est-à-dire qu'il y a des correspondances naturelles qui sont beaucoup plus évidentes pour certains, par exemple l'esprit, alors que d'autres sont plus en relation ou en correspondance naturelle avec l'âme de l'être humain, et d'autres sont plus en relation ou en correspondance naturelle avec le corps. Et ça, on le voit, on le vit tous les jours, c'est du bon sens quelque part. On voit bien qu'il y a des gens qui sont plus aptes à tout ce qui est multiple, de manière matérielle, doués avec leurs mains, et d'autres qui sont plus à même d'utiliser leur cerveau, etc. Mais de toute manière, dans tous les cas, si ces gens-là se sont ouverts, comme le dit la chanson, finalement, ils sont reliés par quelque chose de particulier, de cette planète invisible dont parle Dao, quoi. Quand il dit « je vois que tu viens d'une planète invisible comme moi », voilà, c'est un peu ça qui se passe en fait.
Voilà.
Mais après.
Et quand on vient de cette planète invisible, on se reconnaît facilement.
Ben, j'ai l'impression que oui. Hein.
Ouais. Et alors, ça sous-entend qu'il faut d'abord venir de cette planète invisible. Alors, si tel n'est pas le cas, j'évoque cette hypothèse parce que dans votre livre, vous nous faites comprendre que vous avez eu, je dirais pas comme une sorte de révélation, mais plutôt une prise de conscience à un certain moment de votre vie, qui coïncide avec le moment où vous êtes devenu père.
Oui.
Et d'une part, et
d'une part.
D'autre part, qui a eu, vous abordez une notion de bipolarité,
oui.
et aussi un troisième élément qui est de dire, même s'il y a eu un déclic, même si j'ai pris conscience, après, quelque part, j'ai bossé, j'ai enquêté.
C'est ça.
Hein? Voilà. Mmh. Alors, revenons à cette prise de conscience parce que vous devenez père, ou au moment où vous devenez père.
Un peu avant, oui.
Ouais.
Je peux le résumer simplement. Hein, c'est, vous êtes là, on vous annonce que vous allez devenir père. Et y a un moment, appelez ça un instant de grâce, je sais pas quoi, enfin, il y a plusieurs mots pour ça. Vous êtes tout seul quelque part et vous vous posez simplement la question, c'est qu'est-ce que je fais là, quoi. C'est tout bête. C'est tout bête, mais c'est une petite impulsion qui fait que qu'est-ce que je fais là, c'est pas que de l'avoir, c'est aussi de l'être. Et donc du coup, c'est là où il y a une petite bascule entre l'avoir et l'être qui s'opère. Et du coup, on plonge vers le fait que la graine d'éveil que je pense une grande partie des gens ont en eux va se réveiller quelque part et commencer à pousser. Et donc là, l'enquête commence réellement puisque on interroge les religions, on interroge plein de courants possibles, plein de formes possibles. Puisqu'il y a plein de formes possibles pour décrire une seule et même vérité, quoi, qu'on ne peut pas atteindre.
Alors, dans votre livre, vous dites très franchement, vous parlez de bipolarité.
Oui.
Alors, c'est un élément qui a été handicapant, ou c'est un élément, au contraire, qui vous a permis de mener cette enquête ?
La bipolarité, d'après la science, c'est quelque chose de polyfactoriel. Par contre, ça n'intègre pas la dimension spirituelle. Donc, il n'y a pas une approche systémique de la bipolarité, à ma connaissance. Et en fait, moi, j'ai vécu quelque chose où ça marchait sur tous les plans, quoi. C'est-à-dire que je ressentais, il y avait la manifestation de la bipolarité. Les chocs au niveau de l'âme, au niveau du cœur, et puis toutes les questions que je me posais d'un point de vue spirituel pour me dire, mais bon, parce qu'il m'arrivait des choses quand même incroyables, et du coup, on se pose des questions, quoi, sur qu'est-ce qui se passe. Et là, on n'a pas en Occident l'accompagnement qu'on pourrait avoir, par exemple, chez des chamans en Sibérie, où on n'a pas cet accompagnement spirituel qui va bien par rapport aux manifestations qui peuvent se produire. On est suivi par, et c'est déjà bien, et c'est tant mieux, hein, par tout le corps médical et les psychiatres qui peuvent vous aider de ce point de vue-là. Mais c'est limité, c'est eux, leur étude est limitée à la psychologie, quoi. Il faut bien, je sais pas si ça répond.
Parfaitement. Parmi les choses extraordinaires qui vous sont arrivées, vous pouvez nous donner un exemple ?
Ben, je ne sais pas si c'est le lieu de parler de ça, mais...
C'est comme vous voulez.
Vous donner un exemple. Oui, ben, écoutez, quand j'ai fait de la prison au Portugal, puisque j'en parle dans le livre, ouais. Donc parlons-en, c'était suite à un accès dû à la bipolarité. Mais en même temps, ça m'a permis d'expérimenter j'ai eu une vision, en fait, hein, quand j'ai vécu ça en prison. Et donc ça, par exemple, une vision, c'est quand la réalité matérielle et immatérielle s'exprime et vous dit quelque chose à un moment donné sur le futur ou sur autre chose, sur ce que vous êtes à l'instant donné. ça, il faut le discriminer par rapport à ce qu'est une hallucination, par exemple. Et bon, bah ça, c'est beaucoup de travail sur soi, et avec les psychiatres et avec plein de gens.
D'accord,
c'est un exemple.
Très bonne illustration. Oui, il n'y avait pas de raison qu'on ne parle pas de ce sujet. Il est dans le livre.
Tout à fait.
Aucun problème. Alors, avant de revenir un petit peu plus en détail dans le livre, je voulais vous demander comment vous avez procédé pour écrire. Parce que vous nous parlez d'une enquête intérieure, je ne me rappelle plus, qui a duré à peu près une quinzaine d'années. Vous avez écrit à partir d'un certain moment, ou il y a longtemps que vous prenez des notes. Comment vous avez arrangé et structuré tout ça?
Alors, en gros, si je reprends l'analogie avec le lotus ou la rose, prenons le lotus par exemple, c'est au moment en fait où le lotus sort de l'eau que je me suis mis à écrire, pour vous donner une image. Donc ça veut dire que c'était en fait les textes, ils sont venus au fur et à mesure et en goutte à goutte à partir de 2014-2015 jusqu'à ce que je les rassemble. Et là, je remercie Daniel et James pour leur aide au niveau d'Hazard Atelier et Emmanuel qui m'a mis en relation avec eux, qui m'ont dit, bah oui, ça peut faire un livre, de rassembler tous ces textes qui viennent au cours des ans et qui finalement parlent de la même chose.
Avant de commencer à écrire ces textes, vous aviez déjà eu une expérience d'écriture ou c'était un besoin impérieux d'écrire sur ces sujets-là qui a jailli?
Non, c'est plus un besoin impérieux. Il y a quelques-uns des textes, je ne les ai pas écrits. Enfin, c'est quasiment de l'écriture automatique, quoi. Enfin, c'est vraiment parce que ça sortait, quoi.
D'accord. Spontanément.
Ouais.
D'accord. Et vous avez trouvé que c'était un exercice difficile ensuite de tout mettre en ordre?
Alors, ça dépend des textes, en fait. Ça dépend des textes. Pour la gouvernance naturelle, le dernier texte, oui, j'ai dû travailler beaucoup. J'en ai plus d'une dizaine de versions. Sinon, les autres, quasiment pas, non. Enfin, c'est quasiment. Ils ont été retouchés pour certains, mais pas beaucoup.
D'accord. Alors, venons-en plus précisément au texte. Donc, dans votre livre, j'ai identifié deux grands aspects. Le fait que vous faites un certain nombre de constats et que, après avoir fait ces constats, vous proposez une solution.
Oui.
Ou une piste vers la solution, peut-être. Alors, dans les constats, vous dites que la société fait écran entre l'homme et la nature. Ça veut dire que... c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose contre laquelle on ne peut rien faire, ou au contraire, si on veut, on peut.
Ça veut dire que, comme je le dis dans le texte qui est associé à la phrase de Simone Veil qui décrit ce que vous venez de dire, cet écran, il est produit, ce sont les projections de nos pensées en fait. Donc, quand on constate ça, on se dit que le travail doit être fait au niveau des pensées si on veut s'en libérer, tout simplement. Donc, c'est pas si on veut, on peut. Mais on peut prendre la décision de regarder comment notre processus cognitif, au travers des projections de nos pensées, a pu construire cette société qui, à mon sens, est complètement à l'envers.
Sur ce constat de la société complètement à l'envers, parce que chaque individu ne fait pas ce cheminement, on peut aussi se poser la question, est-ce que chaque individu est capable de faire ce cheminement? Et sinon, comment peut-on accompagner ou inciter les individus à le faire?
Alors, dans l'enquête que j'ai faite sur les 15 premières années, j'ai mis en place, pas une méthode, mais ma manière de faire pour me connecter, entre guillemets. C'est de soit... Enfin, il y a trois piliers, en fait, dans ce que je fais. Il y a la méditation, l'étude et le partage. Et je pense que si on... Enfin, en tout cas, pour moi, si en faisant ça, j'ai pu creuser ce que j'étais et avancer et le partager avec d'autres, qui, à leur mesure, deviennent ce qu'ils sont, quoi. Ça, c'est la phrase de Nietzsche. Et c'est, pour moi, c'est ça le truc, en fait. Après, je sais pas si tout le monde peut le faire. Je sais pas s'il faut que tout le monde le fasse. Je pense que peut-être que tout le monde n'a pas à le faire. Hein. C'est pas très grave. Par contre, ce qui est important, c'est que les gens qui actuellement écoutent les lobbies, dans le sens négatif du terme, se mettent à réécouter, entre guillemets, des sages, et qui intègrent la partie spirituelle dans ce qu'ils sont.
C'est peut-être un exercice difficile.
Mais c'est ça la proposition.
D'accord. Et cette proposition, c'est une manière de faire muter la société.
Oui. C'est une, alors, dans ce que j'écris, on s'aperçoit que la société n'a a priori pas muté, ou elle a peut-être muté une fois il y a très longtemps, mais elle a pas muté depuis très longtemps en tout cas. Donc c'est beaucoup d'évolution. C'est un peu comme si vous repeignez en permanence les murs de la prison. Et on n'est pas sorti de la prison depuis un certain temps, quoi. Donc, du coup, ce qui est important, c'est de muter, et pour engager une évolution pérenne, et d'arrêter d'évoluer dans des nuances qui font qu'on reste enfermé, quoi.
Voilà, vous dites que finalement on a certainement évolué, mais on n'a pas réussi à muter. Donc,
oui.
Cet échec, vous l'attribuez pour part au fait qu'on aurait peut-être fait collectivement et au niveau civilisation commis une erreur d'interprétation des textes fondateurs des principales civilisations, justement.
Oui, je dis que ça peut être une possibilité parce qu'en fait, je m'aperçois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau de la pensée qu'on travaille et qu'il faudrait vraiment travailler. Donc, là, la notion de récit, elle prend un sens vraiment important. La notion de récit, il y a des récits, il y en a plein, hein, des récits qui actuellement influencent la foule et toute la communauté humaine. Moi, je fais partie du spatial et je peux vous dire que ça pèse lourd aussi dans la balance. Donc on voit bien que oui, il faut absolument essayer de faire en sorte de ne pas éventuellement commettre l'erreur qui a été commise, à mon sens. Je ne suis pas sûr que ce soit ça qui se soit passé. Hein. Mais je propose ça parce que je me dis que l'homme est tellement devenu mégalomane et présentant un syndrome de l'hubris assez important. Il peut y avoir que ça à l'origine, quoi. Donc c'est ma proposition, mais effectivement, il y a une différence entre dire « je suis Dieu » et « je suis comme Dieu ». C'est pas la même phrase.
D'accord. Au-delà de ça, donc ça donne une perspective qui interroge forcément sur la notion de durée, parce que... Si on regarde ce qui s'est passé jusqu'à présent, effectivement, vous constatez que l'homme a évolué mais n'a pas muté. Donc, s'il se met en ordre de marche, et si tout va bien, s'il arrive à muter individuellement et collectivement, alors là, il va y avoir un gros facteur déclencheur.
Oui.
Mais combien de temps cela va-t-il nous prendre encore ?
Ça, c'est une question que je pose aussi. D'après ce que j'ai compris de l'écologie physique actuelle et qui a été par exemple développée par Dennis Meadows dans les années 70, on n'a plus beaucoup de temps, quoi. C'est-à-dire qu'on parle de 2030. Donc ça veut dire que de 2023, là, ou on va dire de 2019 à 2030, on a ce qu'on appelle un créneau de tir dans le spatial. On a un créneau, en tout cas, pour faire cette mutation. Donc c'est une mutation qui inclut la partie intérieure de l'être humain.
D'accord. Donc la conclusion, c'est qu'il faut faire vite maintenant.
La conclusion, c'est que la pression écologique, elle monte, qu'on le veuille ou non, et que de toute manière, En tout cas, moi, je m'aperçois au quotidien que les gens vont peut-être finir par se retourner vers les gens de bon sens, quelque part, entre guillemets, quoi, quelque part. Donc, je sais pas, peut-être que ça va se passer naturellement, j'en sais rien, peut-être qu'il y aura des conflits, peut-être que je sais pas.
Merci Thomas, nous allons faire la seconde pause musicale.
How can I keep on smiling at their disguise when I know nothing good ever comes from lies? My heart is no beginner, but still I can lose my temper. Yeah. How can we keep on watching that fucking TV? We're so bored, we don't even care what we see. Takes our strength away and never shows us the way. No. But I think I know the answer. It's only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery. How can the banks of a river meet? Sitting on her bed, staring at her feet. She thinks life is water.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous reprenons notre conversation avec Thomas Grenier, La mécanique secrète, publiée cette année chez Hasard Éditions. La musique que nous venons d'entendre, c'est « Ce n'est rien de plus qu'un mystère et je l'aime ».
Ouais.
Pourquoi l'aimez-vous ?
Ben justement parce que c'est un mystère et que l'inconnu devrait nous conduire plus souvent. Et je me suis aperçu avec des amis, avec d'autres, avec des gens qu'on a rencontrés dans nos aventures, que les gens avaient souvent peur de l'inconnu. Vous voyez, ils voient ça comme une piscine, où ils sont au bord d'une piscine, ils connaissent pas la température de l'eau, ils connaissent pas la profondeur de l'eau, ils connaissent pas... Et quelque part, il faut plonger, quoi. Et l'inconnu, c'est ça. Et en fait, le mystère, c'est ça aussi, quoi. À mon sens. D'accord.
Alors, revenons directement à votre texte. Vous parlez d'Exode au sujet, après le constat du fait qu'on est peut-être au bout d'un cycle de civilisation. Au bout d'une... Alors, ça dépend si on est optimiste ou pessimiste, hein, c'est-à-dire à la veille ou au commencement d'une apogée qui viendra, ou peut-être en pleine décadence et pas loin de la fin. Et dans votre livre, il y a quelque chose que... Une image que j'ai bien aimée, c'était de dire que par le passé, dans les civilisations antérieures, finalement, quand on était... rejeté de la société, quand une civilisation s'écroulait, eh bien, il y avait un mouvement d'exode et on pouvait aller autre part. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Non, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je porte cette casquette, d'ailleurs. C'est-à-dire que sur ma casquette, il y a marqué qu'il n'y a pas de plan B, à part notre planète. Donc ça, c'est un clin d'œil à Elon Musk. Et effectivement, je pense que la situation globale dans laquelle on est implique que, contrairement à l'Empire grec ou des choses comme ça, y a pas de, on ne peut pas aller un peu plus loin pour repartir et redonner un élan de vie à une communauté, quoi. Il va falloir... alors, je ne dis pas qu'on n'ira pas explorer l'espace, l'univers plus tard. Ce que je pense, c'est qu'on devrait d'abord démontrer notre valeur en tant qu'être humain ici, et, à savoir tenir notre rôle, notre place, et ne pas détruire tout l'écosystème auquel nous faisons partie, quoi.
Et alors, pour aller dans cette direction, vous avancez, vous nous proposez une voie que l'on pourrait appeler la gouvernance naturelle. C'est-à-dire que, après nous avoir dit que, de manière individuelle, chaque individu donc devait se replonger dans sa profondeur, il y avait quelque chose qui existait, qui avait déjà existé et qui continuait partiellement à exister aussi. On donnera des exemples tout à l'heure. Sur cette gouvernance naturelle qui est, on pourrait dire, assise sur un ordre naturel harmonieux.
C'est alors, ça.
Est-ce que vous pouvez nous dire d'où, quel est cet ordre naturel harmonieux?
Cet ordre naturel harmonieux, si, déjà, si je repars de la définition d'harmonie que j'ai donnée, je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein, à savoir que c'est les rapports justes entre les parties d'un tout qui font que ces parties concourent à un même effet. Donc ça veut dire que cet ordre harmonieux, c'est le fait que tout le monde est bien à sa place, là où il faut, en fonction de l'ensemble. Et c'est bien ça la loi de la nature, quoi. Donc, et c'est bien ça qu'on observe, c'est que l'être humain n'est plus à sa place. N'est plus en synergie avec la nature. En tout cas, alors qu'il devrait faire partie intégrante de la nature. Donc du coup, il y a vraiment une problématique qui fait que certains êtres humains ont eu la capacité, à un moment donné, en observant ce qu'ils étaient intérieurement et extérieurement, ce qu'on appelle l'attention ou la méditation, en méditant sur ce qu'ils étaient, ils ont bien vu qu'ils étaient là où ils étaient, qu'ils étaient censés respecter la nature de manière matérielle ou immatérielle. Donc de prendre en compte la globalité de ce qui se passait. Et c'est ça que j'appelle la gouvernance naturelle.
D'accord. Vous pourriez nous donner des exemples de fonctionnement de cette gouvernance naturelle?
Des exemples historiques?
Oui.
Oui. Dans le livre, je cite les Indiens Kogis en Amérique du Sud, qui, de ce que j'ai pu lire, fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont en harmonie complète dans la nature. Après, je cite les Celtes, je cite... qui est-ce que je cite encore? Les Égyptiens pour partie. Il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres, mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'écris aussi dans ce texte, c'est que l'équilibre est très instable et très difficile à pérenniser. Voilà, et j'explique aussi la manière dont se construit une gouvernance naturelle, et le cœur de la construction, c'est la valeur humaine démontrée, en fait. C'est-à-dire qu'on se met, et j'espère que ça va être le cas dans pas longtemps, à se retourner vers les gens qui ont une grosse valeur humaine démontrée, et plus seulement une valeur de connaissances pures, donc d'intellectualisme pur, et qui est bien, mais qui n'est pas suffisant. Quoi.
Est-ce que la gouvernance naturelle implique une nouvelle hiérarchie parmi les hommes?
Alors, oui et non, ça implique une... Ça dépend ce que vous entendez par hiérarchie, en fait, parce que c'est... Quelqu'un qui démontre sa valeur humaine, il va pouvoir être reconnu par ses pairs et par les autres. Si pour vous, ça, c'est une hiérarchie, je vous réponds oui, une matriarche dans une famille, on peut parler de hiérarchie. Mais pour moi, c'est complètement naturel, c'est une hiérarchie naturelle, c'est-à-dire qu'elle est à sa place, la matriarche.
Parce que vous parlez de hiérarchie des rôles qui permettent de maintenir une harmonie.
Ah oui, alors...
Est-ce que ça signifie que naturellement, la gouvernance en question va avoir pour une conséquence automatique de dire à chacun sa place de manière naturelle, sans problème?
Alors normalement oui, puisque chacun prendra sa place de manière naturelle, au travers de ce mécanisme de valeur démontré. Si je fais attention aux gens qui m'entourent, et que je reprends par exemple ici la phrase de Nietzsche, deviens ce que tu es et fais ce que toi seul peux faire, bah, l'idée c'est de vraiment observer depuis le plus jeune âge les gens, pour voir comment ils évoluent et comment ils peuvent muter de temps en temps, pour savoir ce qu'ils sont et quelles sont les correspondances naturelles qui les habitent. Donc pour savoir s'ils sont plutôt doués pour les notions spirituelles, s'ils sont plutôt doués pour la vibration animique, donc la psychologie, ça peut être la politique aussi. S'ils sont plutôt doués pour tout ce qui est matériel, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc à savoir faire des choses avec leurs mains, ce qui empêche pas qu'ils peuvent pas faire partie... Enfin, je veux dire, il peut y avoir n'importe qui, n'importe où, dans n'importe quel ordre, mais ce qui est important, c'est de vraiment respecter ce moteur hein, de valeur démontrée, qui permet de savoir à qui on s'adresse et quand et comment.
Qui engendre donc l'harmonie, qui sont facteurs de...
Et qui engendre l'harmonie, puisque par exemple, si on prend le cas de l'être humain, il a un corps, une âme, un esprit, d'accord ? Donc du coup, si ces trois parties sont en harmonie, il y aura une homéostasie pour l'être humain. Il va être en bonne santé, il sera bien.
Dans votre livre, vous dites que une des conditions pour mettre en place cette gouvernance naturelle, c'est la dissolution de l'ego.
Oui.
Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors l'ego, c'est l'image... Quand on arrive sur Terre, l'ego, c'est l'image qu'on crée avec son mental de ce qu'on est. C'est une image, l'ego. Et cette image, elle fait partie de ce que j'appelle les pouvoirs en soi, qui peuvent usurper la place de notre autorité naturelle. L'autorité naturelle, c'est ce qui, normalement, démontre sa valeur et est là et prend, donne les directions, donne les orientations, en tout cas les propose. Du coup... Cet ego, il peut rapidement...